Naïma Moutchou, auditionnée par la Commission des lois à l'Assemblée nationale, la ministre des Outre-mer a donné des précisions sur la consultation citoyenne sur l'accord de Bougival qui pourrait avoir lieu au mois de mars. Le gouvernement veut alléger les contraintes financières qui pèsent sur la Nouvelle-Calédonie. Il demande officiellement à l'AFD de suspendre le remboursement des prêts garantis par l'État. Un musée La Pérouse à venir à Vanikoro, où les deux bateaux de l'expéditeur français ont péri corps et âme en 1788. Emmanuel Macron a donné son feu vert. Il ne faut pas faire preuve de faiblesse et se préparer à un conflit en Europe si la Russie maintient ses intentions belliqueuses. L'intervention du chef d'état-major des armées françaises devant le Congrès des maires n'est pas passée inaperçue. Et puis dans la page sport, la première victoire des filles du Paris FC en Ligue des Champions, victoire 2-0 face au Benfica Lisbonne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dans une semaine, l'association Femmes Chefs d'Entreprise fêtera ses 40 ans. Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Comment voit-elle leur rôle de dirigeante? Nous en parlerons dans les Jeudis de l'économie dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de Christiane Wanessi, qui est vice-présidente des Femmes Chefs d'Entreprise et gérante de deux sociétés, Pacific Market et Chateaubriand Weir. En plateau également, Dominique Nixon, gérante de la Vinothèque et vice-présidente de la CCI, Solange Ray, gérante d'Actemium et Amandine Budier, gérante de Sister Food, des Jeudis de l'économie à retrouver dès la fin de ce journal. La consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival pourrait être organisée en mars prochain et non en février, comme prévu initialement. C'est l'une des annonces faites par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui était auditionnée par la Commission des lois du Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, Elisabeth Noir.
La ministre des Outre-mer a rappelé que majoritairement les forces politiques calédoniennes, hors FLNKS, souhaite poursuivre la mise en œuvre de l'accord de Bougival avec des éclaircissements éventuels. Pour redonner sa force à cet accord qui n'est pas soutenu unanimement, l'organisation anticipée de la consultation a été un élément de la discussion, a-t-elle souligné, en précisant les modalités de mise en œuvre.
Ces 5 forces politiques sur 6 ont souhaité que l'État mette en œuvre cette consultation. Elle était déjà prévue dans l'accord de Bougival. Elle devait être organisée à la fin du mois de février. Elle sera probablement, parce que nous sommes en train de regarder le calendrier, organisée au mois de mars. Elle nécessite bien sûr une base juridique. Ce sera un projet de loi ordinaire. Le texte sera présenté en Conseil des ministres d'ici le mois de décembre si nous voulons tenir les délais. Et un examen au Sénat pourrait être envisagé début janvier. Tout ça est effectivement encore à confirmer. Mais c'est un calendrier prévisionnel tout récent que je suis en train de vous livrer qui nécessite encore probablement des ajustements. Mais cette consultation des Calédoniens, si nous voulons la faire dans les temps, puisque vous le savez, nous avons été en capacité de reporter les élections provinciales avec une date butoir à fin juin, tout ça nous amène donc à une consultation probablement au mois de mars.
Une consultation vraisemblablement au mois de mars, et dans la perspective de cette consultation anticipée, c'est-à-dire organisée avant l'adoption de la loi constitutionnelle, un éclairage doit être apporté aux Calédoniens, a précisé Naïma Moutchou.
Tout le monde est conscient que cette consultation va nécessiter d'éclairer ceux qui vont voter. Et l'accord de Bougival est un accord cadre. Et il y a un certain nombre de questions qui vont se poser dans le cadre de cette mise en œuvre de l'accord. Et si on veut effectivement un scrutin qui soit sincère, pour que les Calédoniens puissent aller voter en conscience, il faudra probablement éclairer un certain nombre de choix. Un peu comme les référendums qui ont eu lieu il y a quelques années maintenant et qui ont nécessité un document préalable avec quelques indications, des questions et des réponses pour permettre aux Calédoniens de savoir le plus précisément possible quelles étaient les conséquences en cas de oui, quelles étaient les conséquences en cas de non. Un peu cette idée qui est aujourd'hui sur la table. J'y réfléchis encore à la meilleure manière dont on peut éclairer les Calédoniens au moment de leur vote, à l'architecture que ça peut prendre, mais c'est évidemment un sujet essentiel et nous y travaillons.
Et pour la ministre des Outre-mer, le corps électoral de la consultation anticipée sera celui qui a été décidé à Bougival par les partenaires politiques, c'est-à-dire la liste électorale spéciale consultation. Lors de cette audition, les sénateurs de la Commission des lois ont également interrogé Naïma Moutchou sur l'abandon du projet de construction d'une nouvelle prison en Nouvelle-Calédonie. Un choix réaliste pour des raisons budgétaires et parce que le chantier prendrait trop de temps, a répondu la ministre.
Bien sûr qu'il y a des ministres avant moi qui se sont engagés à la construction d'une grande prison qui remplacerait purement et simplement celle d'aujourd'hui. C'est au bas mot 500 millions d'euros, au bas mot, au minimum, donc probablement beaucoup plus, 700, 800 millions d'euros peut-être. C'est 7, 8 ans, peut-être 10 ans de construction avec le problème de foncier qu'on connaît par ailleurs sur le territoire. On n'a pas cet argent et on n'a pas ce temps. Compte tenu de la pression à l'intérieur, parce que la surpopulation atteint des niveaux consternants, et compte tenu des conditions de travail difficiles. Donc, à mes yeux, ce n'est pas la solution.
Pas de nouvelle prison dans l'immédiat, mais pour désengorger le camp Est, Naïma Moutchou propose d'autres solutions.
Il y a des alternatives. On nous a proposé, avec le procureur et avec d'autres acteurs de l'institution judiciaire, qu'on puisse créer par exemple un centre de semi-liberté dans lequel on aurait d'autres profils. Ça permettrait de soulager un peu la pression, de sortir un certain nombre de détenus de la prison, 50, 100 profils déjà, pour les amener à autre chose. Et d'ailleurs, pour concentrer, puisque on serait sur la semi-liberté, concentrer un peu plus les activités d'insertion, de lien social, pour un public un peu moins difficile que les autres. C'est une bonne idée.
Extrait de l'audition de la ministre des Outre-mer par la commission des lois du Sénat. Elle était entendue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.
Le budget des Outre-mer n'échappe pas aux coups de rabot dans ce budget 2026. La ministre des Outre-mer a reconnu qu'avec 2,9 milliards d'euros de crédits de paiement, sa dotation affichait une baisse de 18% par rapport au budget 2025. Naïma Moutchou a aussi rappelé que son budget ne représente que 15% des dotations consacrées aux Outre-mer, les 85% restants étant assurés par tous les autres ministères. Le député Nicolas Metzdorf est intervenu lui aussi dans l'hémicycle et en commission. Il a interpellé la ministre des Comptes publics et les députés sur la situation financière catastrophique de la Nouvelle-Calédonie et notamment sur la question des prêts.
Vous savez qu'aujourd'hui, notre taux d'endettement est près de 400% à cause ou grâce des prêts que vous avez bien voulu octroyer à la Nouvelle-Calédonie. J'aimerais donc vous poser une question. Où en sont les discussions avec l'exécutif local sur le besoin en financement de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2026, puisque nos politiques publiques en dépendent?
Dans sa réponse, la ministre des Comptes publics reconnaît que les prêts ou les avances remboursables ne sont plus adaptés à la situation.
On a bien compris que votre demande, c'est que nous ayons une attention continue aux finances de la Nouvelle-Calédonie que nous savons sous contrainte, et notamment parce qu'il y a eu les événements de l'année 2024, mais également parce que la filière du nickel est aujourd'hui en très grande difficulté. Et je pense qu'il faut toujours rappeler qu'il y a eu effectivement des événements sur votre île, mais également qu'on a un énorme enjeu économique qui d'ailleurs préexistait à une partie des difficultés ensuite institutionnelles et des violences qui ont été commises. Je ne vais pas revenir sur les éléments du rapporteur général, vous les connaissez. Les avances remboursables, vous le savez aussi, ne sont pas vraiment adaptées puisqu'il faut les rembourser en moins de 2 ans et ça ferait peser sur le gouvernement de Nouvelle-Calédonie une pression qui, je pense, ne serait pas adaptée à la situation. Je laisserai la ministre en charge des Outre-mer, Naïma Moutchou, et le Premier ministre, évidemment, vous préciser dans les prochains jours les suites du déplacement de la ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Nous n'avons pas prévu, évidemment, de vous laisser sans soutien. Vous savez que le sujet, c'est comment on fait aussi des réformes pour retrouver une forme de stabilité et de soutenabilité financière. Donc je pense que voilà, le travail va continuer.
Et en commission des finances, le député Nicolas Metzdorf a fait valider sa demande que chaque année, un point soit fait sur l'évolution du soutien à la Nouvelle-Calédonie. Dans la même dynamique, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient d'adresser un courrier à l'AFD, l'Agence française pour le développement, pour lui demander de suspendre le remboursement des prêts accordés par l'AFD et garantis par l'État. C'est ce que nous a indiqué Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie et du budget.
On a 8,4 milliards rien que d'intérêts à rembourser pour le budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas, on doit aujourd'hui prioriser sur nos retraites, sur la relance économique. Et donc on a décidé au sein du gouvernement hier de demander officiellement à l'AFD et en copie au Premier ministre que, au moins pour l'année 2026, ces prêts soient suspendus. Le temps de 2 choses. Un, de retrouver une activité économique normale et qui nous permet de rembourser ces prêts, puisqu'on ne peut pas avoir une baisse de 15% de notre PIB et d'avoir une capacité de remboursement. Et surtout, on a des discussions en cours dans le cadre du pacte de refondation de la Nouvelle-Calédonie sur une transformation de ces prêts en subventions. Donc, tant que ce contrat de désendettement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas été établi, nous avons demandé que ces prêts soient suspendus pour nous donner de la marge de manœuvre pour relancer l'économie calédonienne, pour financer un certain nombre de régimes sociaux. Donc maintenant, on va attendre la réponse de l'AFD et des discussions avec l'État.
Le courrier est donc parti ce matin. Et Christopher Gigès indique que dans le cadre de la construction du budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie, il est très compliqué d'avancer avec une charge aussi importante que le remboursement de ses prêts. Les élus du Congrès réunis en séance publique ce matin, séance technique dans un hémicycle clairsemé, séance présidée par la première vice-présidente du Congrès, Virginie Rufnac. Après avoir reporté l'examen du rapport d'observation de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie, les élus ont commencé la séance en évoquant la politique de l'eau, Nicolas Legrand.
Oui, ils ont étudié le projet de délibération prise en application de la fameuse loi du pays relative au domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource en eau. Il porte sur la mise en œuvre des procédures de consultation et d'enquête publique, un texte technique, vous l'avez dit, pour cadrer la mise en œuvre de ce volet de la loi. Comme lors de l'adoption de cette loi du pays, les groupes rassemblement et loyalistes ont fait part de leur opposition au texte qui prévoit, vous le savez, une gestion différenciée des règles sur l'eau, qu'on soit sur terre coutumière ou sur le domaine public. Le Rassemblement s'est donc abstenu, les loyalistes ont voté contre et le texte a été adopté avec 23 voix pour. Les élus ont ensuite adopté la délibération prise pour l'application de la loi du pays relative à l'identification et à la cession des carnivores domestiques en Nouvelle-Calédonie, qui a notamment créé le statut d'éleveur. Seul le groupe UC s'est abstenu et le texte a été adopté. Une délibération qui avait en fait un double objectif. Un, mettre en place l'identification obligatoire des carnivores domestiques selon des modalités précises. Il peut s'agir d'un transpondeur ou d'un tatouage qui permettra l'enregistrement de l'animal sur le fichier calédonien d'identification des chiens et des chats. Et le deuxième objectif de cette délibération, c'était de définir les manifestations consacrées aux chats et aux chiens en déterminant des règles sanitaires et celles relatives à la protection animale lors de ces regroupements. Il a ensuite été question lors de cette séance du logement social. Les élus ont débattu d'un projet de résolution sollicitant une modification du code de la construction et de l'habitation. L'objectif était de permettre aux organismes de logement social de cotiser à la Caisse de garantie du logement locatif social, la CG2LS, qui est un organisme national et qui a notamment pour mission de garantir les prêts contractés par les organismes de logement locatif social. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a donc sollicité auprès de l'État la modification des statuts et des règlements de cette caisse nationale afin que les bailleurs sociaux du territoire puissent bénéficier des financements spécifiques de l'État pour la rénovation urbaine notamment. Cela permettra aussi de bénéficier de l'ingénierie de la caisse en matière de financement pour les opérateurs calédoniens. Cet élargissement du dispositif national à la Nouvelle-Calédonie a donc été adopté. Les loyalistes, le Rassemblement, l'UNI, le groupe UCF, l'NKS et nationalistes se sont pourtant abstenus. La chose à noter, c'est que la proposition de résolution a été adoptée avec seulement 9 voix, celle de l'éveil océanien et de Calédonie ensemble, alors qu'il y a eu 32 abstentions. Et enfin, le dernier texte à l'ordre du jour était un projet d'ordonnance étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions d'une loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales. Auparavant, vous le savez, la règle de scrutin n'était pas la même pour les communes de plus ou de moins de 1000 habitants. Eh bien, en métropole, cette loi a changé. En Nouvelle-Calédonie, seules 4 communes de moins de 1000 habitants sont concernées au dernier recensement. Il s'agit de Belep, Farino, Moindou et Saramea. Les évolutions majeures sont l'obligation de constituer des listes paritaires, l'adoption d'un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne assortie d'une prime majoritaire, alors qu'auparavant la proportionnelle s'appliquait sans prime, et le passage à un scrutin à 2 tours en remplacement du système actuel à un seul tour. Le nombre d'élus évolue également. Jusque-là, un conseil complet était fixé à 9 personnes pour les communes de moins de 500 habitants. Ainsi, le projet d'ordonnance introduit une nouvelle répartition. 7 conseillers pour les communes de moins d'une centaine d'habitants, 9 conseillers pour celles entre 100 et 499 habitants et 13 conseillers pour les communes de 500 à 999 habitants. Cette nouvelle disposition ne rentrerait pas en vigueur pour les prochaines élections de 2026, mais bien en 2033, le texte a été adopté. Et enfin, par ailleurs, signalons que Philippe Michel a démissionné de la commission permanente le 12 novembre dernier pour, dit-il, des questions de réorganisation interne. On rappelle que le chef du groupe Calédonie Ensemble a été condamné à une peine de 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des collaborateurs wallisiens et futuniens. Annie Roisé a été élue pour la remplacer il y a quelques instants. La séance vient tout juste de se terminer au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nicolas Legrand, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. À l'unanimité, les auditeurs qui se sont exprimés par SMS pensent que les entreprises détruites lors des violences insurrectionnelles et qui choisissent de reconstruire ont raison de faire ce choix. Et voici notre question du jour. Le Haut Commissariat a-t-il raison, selon vous, d'interdire certaines armes blanches comme les couteaux dits zombies ou les coups de poing américains? Si vous pensez qu'ils ont raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1. Pardon, si vous pensez qu'il a tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. À 11h et bientôt 45 minutes, la première pause de ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Profitez du sac de croquettes Wallpy Croc, 18 kilos, riche en viande, produit localement pour le plus grand plaisir de votre chien. Jusqu'au 27 novembre, le sac est à seulement 3 990 francs. Vos animaux aussi ont droit au plaisir et mieux encore, aux bonnes affaires. Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être. Les sapeurs-pompiers de Nouméa vous ouvrent les portes de la caserne Lucien Parent, située au centre-ville, le samedi 29 novembre de 9h à 16h.
Visite des camions, initiation aux gestes qui sauvent, démonstration du groupe d'intervention en milieu périlleux, parcours du mini-pompier.
Un programme riche en animations et surprises vous attend.
Et pour les enfants, un concours de dessin sur le thème des pompiers est d'ores et déjà ouvert. Déposez-le avant le mercredi 26 novembre à la caserne Lucien Parent.
Des lots seront offerts le jour J.
Toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa ma ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les élus du conseil municipal de Nouméa, réunis hier soir à l'hôtel de ville, ont notamment habilité le maire à présenter une demande de permis de construire. Cela concerne l'extension de l'hôtel de police municipale, la réhabilitation de l'ancien pôle de service public de Rivière-Salée, la réhabilitation de l'ancien espace municipal de Tuban, ou encore l'aménagement de la brigade nord de la police municipale dans les anciens locaux de l'école Burke de Rivière-Salée. Des travaux qui sont la suite des les conséquences des émeutes de 2024, puisque ces équipements avaient été incendiés ou saccagés lors des émeutes. Écoutez le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Quand on a des bâtiments qui ont été brûlés, soit on les démolit complètement, quand ils sont à moitié brûlés, et c'est le cas pour un certain nombre de nos bâtiments, alors il faut faire les études bâtimentaires avant de savoir si on reconstruit la totalité, si on met la moitié du bâtiment par terre, si on construit en totalité, ou alors si on vient se poser sur un mur qui a éventuellement chauffé. Il faut reconstruire de manière saine. Donc ça a mis du temps parce qu'on a fait ces études bâtimentaires. Donc il y a Tuban d'abord, on va être construit, la maison de Tuban, qui a brûlé là à moitié. On refait aussi le PSP de Rivière-Salée, dans lequel on avait le CCAS avec la maison de la famille. On va y loger aussi l'espace municipal qui lui a complètement brûlé, qui était plus loin. Et puis on va refaire une médiathèque de manière plus petite. Et on mettra aussi l'état civil parce que ça rend service dans le quartier. Il y a la police qui était à Rivière-Salée et dont le bâtiment a brûlé. Il y avait la vie scolaire qui était là-bas. Donc il nous restait deux maisons sur le site qui n'ont pas été gravement touchées. Donc on remettra la police municipale là-bas. Et juste à côté, dans l'autre maison, on mettra aussi la police nationale qui travaille les deux conjointement. Donc on pourra déposer des plaintes et la police sera à nouveau dans le quartier de Rivière-Salée.
Sonia Lagarde au micro de Michael Juneski. Notez que ce soir, c'est le conseil municipal de Dumbéa qui se réunit à 17h30. Les élus procéderont notamment au débat d'orientation budgétaire. C'est une information du quotidien La Voix du Caillou. Trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris chargés de l'information judiciaire ouverte contre les commanditaires présumés des émeutes de mai sont à Nouméa. Ils ont commencé à mener des interrogatoires de cadres et de militants qui sont proches de la CCAT. Frédéric Mouliava, l'ancienne directrice de cabinet de Roquemitan, est de retour en Nouvelle-Calédonie après plusieurs mois d'incarcération en métropole. Assistée de son avocate, elle a été l'une des premières à être entendue hier par les juges d'instruction parisiens. Joël Tchibaou, l'un des frères du député Emmanuel Tchibaou, a également été convoqué. Pendant une semaine, les magistrats entendront un certain nombre de militants indépendantistes affiliés ou non à la CCAT qui apparaissent dans la procédure. Et puis la suite de la session d'assises à Nouméa. Depuis ce matin, la cour juge un homme pour une série de viols sur sa compagne. Les faits se sont déroulés à Nouméa entre 2020 et 2023. Il comparaît également pour des faits de violence intrafamiliale et encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Hier, le tribunal a condamné à 20 ans de prison un homme qui avait tué son oncle handicapé à coups de carabine à la tribu de Paouta à Pointe-Bout en 2022. À l'origine du drame, un conflit coutumier et foncier concernant l'héritage d'une maison. Le collège de Boulary a inauguré ce jeudi 20 novembre deux nouveaux espaces modernes entièrement repensés dans le cadre du programme Collège Nouvelle Génération, Léo Fichou.
Le CDI et les salles Ulysse ont été transformés pour offrir aux élèves un environnement d'apprentissage innovant, inclusif, un nouveau CDI donc, lumineux et modulable, des salles Ulysse modernisées, apaisantes et adaptées aux besoins spécifiques des 24 élèves concernés. Didia Lefebvre est la nouvelle directrice du collège de Boulary.
Tout est beau et tout est neuf. Là, pour le coup, on a engagé pendant 4-5 ans à une restructuration sur une restructuration totale du collège. Donc, puisque vous voyez aujourd'hui au niveau du CDI, ce que l'on va voir au niveau du LIS, c'est que les prémices d'un très grand projet. L'un des 7 facteurs du climat scolaire, c'est déjà le cadre scolaire. Et il est essentiel d'avoir quelque chose de construit, d'accueillant et qui puisse permettre aux élèves des activités multiples. Donc voilà, on est engagé sur une belle trajectoire. Effectivement, on a commencé avec nos élèves les plus fragiles, ceux du 10, ceux à besoins éducatifs particuliers. Le CDI, parce que c'est aussi le poumon de l'établissement, il accueille tous les élèves, mais aussi les personnels. Et dans un second temps, on va avoir effectivement les salles équipées, restructurées, et pour pouvoir mener des actions, mais aussi de la pédagogie dans les meilleures conditions.
Ces aménagements marquent donc une avancée importante pour le bien-être et la réussite de tous les collégiens, et ce, grâce à l'investissement de la province Sud à hauteur de 80 millions de francs. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud.
On voulait flécher une partie de notre budget pour que ce soit des projets portés par la population. C'est ce qu'on a fait avec le budget participatif, mais c'est ce qu'on fait également avec le collège de nouvelle génération, où ce sont les équipes éducatives, les élèves, les parents d'élèves même parfois, et qui vont porter des projets d'amélioration des conditions de vie dans les établissements scolaires, dans les collèges en l'occurrence, que ce soit l'accueil des parents, l'accueil des enseignants ou l'enseignement, que ce soit dans les CDI ou pour des salles de classe. Et donc, on a mis en place ces appels à projets depuis 2022 et les collèges y répondent et on améliore comme ça. Ces deux projets qui ont été portés par les équipes pédagogiques du collège de Bollary qui ont été lauréats et c'est un investissement de 80 millions pour la province.
L'inauguration s'est donc déroulée ce matin dans le CDI, CDI que les élèves apprécient déjà pour le calme, la fraîcheur et les différents espaces qu'ils proposent.
Et dans l'actualité de ce jour également, la présentation ce matin à la station N de Nouville du projet Campus N. C'est un projet financé dans le cadre du programme France 2030, Lionel Sabour.
Et Campus N est un projet porté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a pour ambition de développer massivement et de coordonner la formation au numérique afin d'augmenter le nombre de professionnels qualifiés sur le territoire. Un projet qui s'inscrit, vous le disiez, dans le programme France 2030. Écoutez Christopher Gigès, membre du gouvernement chargé de l'économie et du numérique.
On a candidaté au projet France 2030 métier d'avenir pour pouvoir bénéficier d'une subvention et d'un accompagnement. On a été lauréat de ce projet. On était en concurrence avec de nombreuses collectivités et de régions métropolitaines et la preuve que marcher ensemble entre le public et le privé, ça nous permet d'obtenir des choses. Donc c'est vraiment un outil de diversification de l'économie calédonienne et de création de nouveaux emplois. Ça participe aux outils qu'on met en place depuis maintenant longtemps sur la filière numérique. On a eu la station N, on a eu des différents appels à projets qui ont été mis en place. Dans le plan stratégique sur l'économie numérique qui a été adopté par le gouvernement, la formation professionnelle est un axe majeur. Donc en fait, on décline le plan stratégique sur l'économie numérique pour que cette filière se développe encore plus.
Le projet Campus N est porté par le gouvernement, on le disait, en partenariat avec un consortium composé de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, du vice-rectorat, du FIAF, le Fonds interprofessionnel d'assurance et formation, et de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. La CCI qui était représentée ce matin par Pierre Massenet, le PDG de CIPAC.
On a des besoins dans tous les domaines du numérique, que ce soit les métiers basiques ou les métiers plus avancés. On a des besoins. Alors la cybersécurité et l'IA sont... on va dire à la mode en ce moment, on en parle beaucoup, mais le numérique c'est énormément plus large et on a des métiers qui sont en tension sur l'ensemble des domaines du numérique. Donc ce sont des bonnes filières d'avenir pour les jeunes et je pense que il faut qu'on arrive à les promouvoir et qu'on ait une offre qui soit adaptée pour former les jeunes calédoniens et calédoniennes dans le futur sur ces métiers.
Et j'ajoute que ce projet Campus N d'un coût total de près de 357 millions de francs est financé à hauteur de 238 millions dans le cadre du programme France 2030.
A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? Cette phrase attribuée à Louis XVI alors qu'il s'apprêtait à monter sur l'échafaud montre l'intérêt que le roi de France portait à l'expédition du navigateur français. Il ne saura jamais que les deux bateaux de l'expédition, la Boussole et l'Astrolabe, se sont échoués sur les récifs salomonais de l'île de Vanikoro 3 ans plus tôt. Une histoire qui continue aujourd'hui de susciter beaucoup d'intérêt. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a donné son accord pour la construction d'un musée La Pérouse à Vanikoro. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La décision d'Emmanuel Macron a été confirmée lors de l'entretien que l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, vient d'avoir à Honiara avec le Premier ministre par intérim des îles Salomon, Frédéric Cologhetto. La discussion a très largement évoqué la nécessité de préserver ce qu'ils ont appelé ce site patrimonial d'une grande importance historique et culturelle pour nos deux pays, pour le Pacifique et pour le monde. « C'est une mémoire partagée de l'humanité », a déclaré la diplomate, avant de se féliciter de coopérer avec les îles Salomon dans la réalisation du projet. Frédéric Cologhetto a évoqué quant à lui la nécessité d'ouvrir un aéroport à Vanikoro afin d'en améliorer l'accès. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Une nouvelle pause à 11h55. On se retrouve dans un instant pour l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Tu rêves d'aventure cet été ? Avec les canettes Nescafé glacées, tente ta chance !
À gagner, une plate 40 chevaux, un paddle, un kayak ou encore un kit de pêche ou de plongée.
Jouez jusqu'au 31 décembre en achetant deux canettes Nescafé, notez vos coordonnées au dos du ticket, puis déposez-le en magasin ou rendez-vous sur jeunestlé.nc. Et pour participer gratuitement, direction Nestlé.
Jeux sans obligation d'achat, règlement complet chez Maître Citrita, huissier à Nouméa.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Les maires de France réunis pour leur congrès annuel depuis le début de la semaine ont probablement été surpris par le discours tenu devant eux par le chef d'état-major des armées françaises. Le général Fabien Mandon n'y a pas été par quatre chemins. Il a évoqué le conflit entre la Russie et l'Ukraine et il a appelé les pays européens et notamment la France à ne pas être faibles.
Le principal risque aujourd'hui, c'est un risque de forme de faiblesse face à une Russie qui est décomplexée dans l'usage de la force et qui poussera son avantage si elle sent qu'on reste faible.
Pas de pessimisme exagéré puisque le chef d'état-major des armées françaises estime que les pays européens sont plus forts que la Russie, mais ajoute-t-il, à condition qu'ils soient prêts à un affrontement non pas sur le sol français mais dans l'est de l'Europe si un pays de l'OTAN était menacé.
Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
À propos de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, Washington affirme avoir transmis un projet d'accord aux deux protagonistes. Il prévoirait de reconnaître l'annexion par la Russie de la Crimée et de plusieurs territoires qu'elle a conquis depuis le début de la guerre, mais aussi une réduction de moitié des effectifs de l'armée ukrainienne. Aucune réaction officielle pour l'instant. Le discours du général Mandon qui fait écho au choix de la France de relancer son industrie militaire, alors que le journal L'Opinion confirme lui qu'Emmanuel Macron s'interroge sur le retour du service militaire sous la forme d'un service national volontaire. Les explications de William Molinier pour Europe 1.
L'état-major des armées a planché toute l'année pour trouver une formule pertinente. Le choix du président s'est arrêté sur une option plutôt ambitieuse, un service militaire sur la base du volontariat. Il durerait 10 mois. L'objectif est d'avoir 10 000 jeunes, filles ou garçons en 2030, 50 000 en 2035. Selon les informations d'Europe 1, sa mise en œuvre pourrait avoir lieu dès l'année prochaine. Les armées vont devoir s'adapter pour accueillir ces premières promotions, trouver des formateurs dans un contexte budgétaire qui ne prévoit qu'une hausse limitée de soldats professionnels autour de 5000 unités. L'enjeu est aussi dans ce vivier d'aller puiser d'éventuels recrues ou à minima des futurs réservistes. Ils sont 50 000 aujourd'hui, mais leur nombre doit doubler d'ici à 2035. Enfin, la journée défense et citoyenneté est elle aussi amenée à évoluer, plus dynamique, plus militaire aussi, avec dès le début de la journée une Marseillaise sous les drapeaux, la traditionnelle présentation des métiers des armées et des séances de tir au laser.
Alors que les députés ont déjà voté plusieurs taxes dans le projet de loi de finances actuellement en débat au Parlement, une annonce de Bercy fait beaucoup réagir. Le ministre de l'Économie et des Finances prévoit d'augmenter la taxe foncière de 63% en moyenne pour s'adapter aux nouveaux critères de confort, mesure qui concernerait plus de 7 millions de foyers et qui a déclenché de nombreuses réactions, y compris dans le camp macroniste, parmi lesquels l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui s'oppose à cette mesure.
On a plutôt besoin de faire en sorte que les Français puissent devenir propriétaires et pas mettre des bâtons dans les roues à nouveau des Français qui veulent devenir propriétaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été réussies ces dernières années d'un point de vue économique, mais objectivement, sur l'immobilier et sur le logement, c'est un échec.
Et à propos du budget, ce sont les sénateurs qui examinent désormais le texte pendant une semaine avant un vote définitif à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Avec une majorité de droite et du centre, le Sénat devrait détricoter la plupart des hausses de taxes adoptées en première lecture par les députés et devrait aussi retirer la suspension de la réforme des retraites. Emmanuel Macron continue, lui, de se tenir à distance des débats budgétaires et se concentre sur d'autres dossiers. Après avoir convoqué une réunion d'urgence sur la lutte contre le narcotrafic, il s'en prend à la régulation des réseaux sociaux. Lors d'un déplacement à Arras, il a évoqué les dangers qu'ils font peser sur la démocratie. Arthur Delaborde.
Un gymnase, un public attentif. Au centre, Emmanuel Macron écoute, souriant, avant de répondre à toutes les questions. Un format qui rappelle le grand débat, mais cette fois, le président se concentre sur les dangers que les réseaux sociaux font peser sur la démocratie. À Arras, il a choisi le lycée Gambetta Carnot, où le professeur Dominique Bernard avait été assassiné il y a 2 ans.
Je veux d'ici dire combien tout ça, évidemment, a marqué la vie de la nation, cette attaque terroriste ici, dans cette cité scolaire. Et vous retrouver pour débattre justement de la force de notre démocratie à Arras dans cette cité scolaire, c'est pour moi tout un symbole. On ne doit rien céder à la barbarie et à l'obscurantisme.
Plateforme, ingérence étrangère, protection des mineurs, pendant plus de 2 heures, Emmanuel Macron dresse son diagnostic et alerte sur les risques qui pèsent sur la formation des consciences et le débat public.
Prochaine municipale, aux prochaines présidentielles, je vais vous dire ce qui va se passer. De plus en plus de nos compatriotes, ils vont aller sur leur IA, sur leur agent IA, et ils vont dire pour qui je dois voter. C'est ça ce qui va se passer. Et là, on va rentrer, je vais vous le dire, dans un autre monde.
Et pour réguler ce nouveau monde, l'Élysée promet des mesures en début d'année prochaine, sans écarter la piste du référendum.
Il est midi et une minute, on parle sport dans un instant et on se retrouvera juste après pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
C'est la fête chez Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnotage et de prix promo tout le mois. Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
Les fêtes de fin d'année arrivent et vous n'avez toujours rien pour votre mari ni pour les enfants? Chez Gémeaux, vous trouverez des tas d'idées cadeaux avec vos héros préférés, Lilo et Stitch, Hello Kitty, La Reine des Neiges, Vaiana, Pat Patrouille, Spider-Man, Pokémon, One Piece, Dragon Ball Z et plein d'autres encore. Chez Gémeaux, jusqu'au 7 décembre, il y a tout ce qu'il faut pour le plaisir d'offrir.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Info Mag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le sport et du tennis pour commencer. Léo Fichou, l'Italie n'a pas tremblé. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis.
Oui, sans leur leader, Yannick Sinner, vainqueur ces derniers jours du Masters ATP. Les Italiens n'ont laissé aucune chance aux Autrichiens. Victoire 2-0 grâce à des succès en 2-7 de Berrettini sur Rodionov et de Coboli sur Mizolic. En demi-finale, l'Italie affrontera la Belgique. Les Belges tombeurs, je le rappelle, de la France au tour précédent. Dans l'autre partie du tableau, les quarts de finale se jouent ce soir. République tchèque, Espagne et Argentine-Allemagne.
Et puis du football sur la scène européenne avec la Ligue des champions féminines et le Paris FC qui a remporté ce matin son premier match dans la compétition.
Il aura fallu attendre la 4e journée pour voir un succès des Parisiennes. Après une défaite contre Chelsea et des nuls contre Leuven et le Real Madrid, elle s'impose 2-0 sur le Benfica Lisbonne. De son côté, Lyon, qui est resté sur 3 victoires lors des 3 premiers matchs, n'a pu faire mieux qu'un match nul, 3 partout sur la pelouse de la Juventus. Demain, ce sera au tour du PSG d'entrer en scène, qui est en très mauvaise posture avec 3 défaites. Le PSG recevra le Bayern Munich.
Et puis dans la région, on continue évidemment de suivre la Ligue des champions de futsal. Et ce jeudi, ce sera le 4e match pour la SPTT.
Les Calédoniens sont opposés depuis quelques minutes au Waikato Rapids, un duel au sommet entre les 2 seules équipes invaincues depuis le début de la compétition. Les Néo-Zélandais sont en tête, la SPTT 2e. La rencontre est à suivre en direct sur le site FIFA+.
Merci Léo, il est midi et 3 minutes. On se retrouve dans un petit instant pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.